Volkswagen.
Tu aimes la musique de sous-sol, mais tu n'oses l'avouer? Eh bien, voici la solution à ton problème existentiel, jeune fou. L'émission Va chercher le fusil avec nul autre que MC Gilles. Et ça, c'est moi. Tous les samedis matins dès 9h sur les ondes de Chiz 94.3 FM Québec. Rejoins notre bande de fous pour le meilleur, mais surtout le pire de la musique, et ce, gratuitement. Donc, samedi matin, 9h prochain, lève-toi et crie avec nous. Oh que oui!
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2013. Je suis en studio avec Anthony Savard-Gauguin, Laurence Tillemont, ainsi que nos deux invités de la journée, Louis-Edmond Hamelin et Joey Bouchard. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, aujourd'hui, en fait, on célèbre notre 50e émission. Et oui, déjà 50 émissions de 3600 secondes d'histoire. Une rétrospective, en fait, des 50 dernières émissions sera publiée sur notre blog et notre page Facebook dans les prochains jours afin de vous indiquer les thématiques des différentes émissions. Mais aujourd'hui, on parle de L'apparition du Nord selon Gérard Mercator, un livre qui est en fait une véritable œuvre d'art publiée par Louis-Edmond Hamelin, Stefano Biondo et Joey Bouchard aux éditions du Septentrion.
Vous pouvez dire Joey plutôt que Joey.
OK.
Pas de problème, on s'habitue.
Désolé. Et on commence, comme d'habitude, en éphéméride avec le 5 juin 1933, ouverture du Musée du Québec sur les plaines d'Abraham, le Musée national des beaux-arts du Québec, qui portait à l'époque le nom de Musée du Québec. En fait, il est ouvert au public le 5 juin 1933, mais sa création remonte à 1922. Ce qui est quand même un peu particulier, c'est qu'on a créé un musée avant d'avoir une collection et même avant d'avoir un bâtiment. Et au début, on va tranquillement acheter des œuvres. Les quatre premières œuvres vont être achetées en 1923. C'est ça, on parle de quatre toiles achetées par des... En fait, non, ils vont déjà être achetés un petit peu plus tôt, pardon, en 1920. C'est ça, quatre toiles, en fait, qui représentent le Québec. Et lorsque le bâtiment va être construit entre 1928 et 1931, bien, par la suite, on va loger trois institutions à l'intérieur. Oui, il va y avoir le Musée des beaux-arts à l'étage, là où on a des grandes verrières qui permettent de bien voir les œuvres. Mais il va aussi avoir, en fait, les archives nationales qui vont être au sous-sol et la collection des sciences naturelles qui va demeurer au musée jusqu'en 1961 et les archives nationales vont demeurer sur place jusqu'en 1980 avant de déménager, en fait, où elles sont aujourd'hui à l'Université Laval dans le pavillon Cazaux.
Le 5 juin 1947, il y a exactement 66 ans, si je ne me trompe pas, en fait, c'est le secrétaire général des États-Unis, George C. Marshall, qui fait sa proposition du plan Marshall à l'Université Harvard. En fait, le plan Marshall va être un plan proposé par les États-Unis à l'Europe pour la reconstruction de l'Europe suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est une aide en argent, surtout, qu'ils vont offrir aux pays européens et même aux pays qui sont sous influence soviétique. Par contre, cette proposition-là va être refusée, rejetée, en fait, par l'URSS. Et, bon, certains disent que ça va, si on veut, accélérer la séparation de l'Europe en deux blocs, donc le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. En fait, il va y avoir 12 milliards de dollars qui vont être injectés par les États-Unis à l'époque. Ça représente aujourd'hui à peu près 148 milliards de dollars. C'est assez considérable. Il faut dire qu'il y a seulement un sixième de ça qui est un prêt. Le reste, c'est entièrement donné à l'Europe. Il faut dire que c'est une action qui n'est pas totalement désintéressée parce que, veux, veux pas, les États-Unis ont besoin du commerce international pour leur économie et donc ont besoin que l'Europe se reconstruise là, également. Sinon, pour cette émission sur le Nord, en fait, on va commencer tout de suite en musique avec Le Train du Nord des Séguin.
Ton train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais il est donc débarqué.
fil qu'il s'est continué et complète sa tête conducteur pour le train du Nord. Au train pour Saint-Denis, y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager si c'est pas la petite douleur pour le train du Nord. Le train du Nord, le train du Nord. Au bord du lac, des petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme là, quand y'a personne là-bas. Oh, le train du Nord. Quand le train de Saint-Albert. Et puis de tout seul continuer au train du Nord. En train pour Saint-Adèle, et rendu dans mon nom laurier. Mais ça n'a plus l'arrêter. Avec qu'on a vu filer dans le firmament des nuits passées au train du Nord. Achou-chou, achou-chou.
Cheese, 94,3.
Et vous êtes toujours à 3600 secondes d'histoire. Et aujourd'hui, on parle du Nord. On parle en fait d'une carte en particulier. On parle de l'ouvrage L'apparition du Nord selon Gérard Mercator. Et on est en studio avec Louis-Edmond Hamelin et Joey Bouchard. Louis-Edmond Hamelin, eh bien, c'est un monument en fait en termes de géographie. On est très choyé de l'avoir avec nous. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le père du concept notamment de nordicité. C'est le père du concept de pergélisol ainsi que de plus de 600 autres concepts liés à la nordicité. Il est professeur émérite de géographie à l'université de l'Université Laval. Il a été recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et bon, la liste de prix qu'il a remporté serait beaucoup trop longue à énumérer. Et Joey Bouchard, en fait, est bibliothécaire à l'Université Laval depuis 2009. Après l'avoir été à l'Université de Moncton, il détient une maîtrise en sciences de l'information de l'Université de Montréal et une maîtrise en études littéraires de l'Université de Québec à Montréal. Et ce qui le fascine, en fait, c'est les sources documentaires, donc les cartes anciennes, mais aussi, en fait, toute la constitution de l'imaginaire du Nord, comment on s'est créé une imagerie autour du Nord, une mythologie dans une certaine mesure. Et donc, on a la chance de les avoir toutes les deux en studio. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et ben, le livre en question, on vous invite à aller voir sur notre page Facebook. On a mis des images de la carte et on va vous donner aussi l'adresse pour voir la carte parce que tout au long de l'émission, eh bien, on va vous faire de nombreuses références à la carte. Donc, M. Bouchard, peut-être la référence exacte de la carte où on peut la trouver sur Internet?
Oui, on peut écrire directement là, sur son navigateur mercator.bibl.ulaval.ca. Et là, on accède à une plateforme web qu'on a réalisée, là, moi et mon collègue Stéphano, ainsi que mon collègue Martin Ouellet de la bibliothèque, qui permet de visualiser la carte, de faire des zooms, de vraiment de l'observer là, dans ses plus fins détails.
Donc, on vous invite à aller dès maintenant, en fait, chercher la carte si c'est possible. Sinon, à y aller lorsque vous aurez un ordinateur devant vous pour mieux comprendre l'émission. Et ben, en fait, ce livre-là, tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de le faire? Pourquoi cette carte-là?
Bien, c'est une longue histoire. C'est une recherche considérable. Mes étudiants de géographie me demandaient de faire un commentaire de carte et, sur Mercator. Donc, j'avais l'habitude, parce que j'ai fait mes études en France, et j'avais appris en France comment faire des commentaires de carte. J'ai enseigné cette matière-là pendant 30 ans. Mais je changeais de carte à peu près chaque fois, chaque semaine. Et donc, quelqu'un m'a dit, bien, Mercator. Bon, Mercator, j'avais vu une fois une carte de Mercator dans une publication d'un historien célèbre au Québec, Marcel Trudel. Mais je n'avais pas regardé plus que ça, puis je n'avais rien compris. Parce qu'il faut trouver la clé pour lire, en somme, une carte. Et celle de Mercator, donc, était difficile à trouver. De toute façon, je m'y suis mis petit à petit, et 20 ans après, 30 ans après, j'ai décidé, en somme, de faire une œuvre là-dessus. C'était en 1990. Et donc, là, j'ai plein temps, en somme, j'étais à la retraite, j'ai étudié cette carte-là. Qu'est-ce que j'ai fait au début? Il y a 370 mots dans cette carte. Et j'ai pris chacun des mots, c'est en latin, pour trouver le sens de ces mots-là. Et une fois qu'en somme, que j'ai habillé mes connaissances à partir des mots de Mercator en latin, bien, j'ai trouvé les clés pour comprendre la carte en général.
Et comment est venue la collaboration justement avec M. Bouchard et M. Biondo de l'Université Laval?
C'est un concours de circonstances. En fait, en 2010, moi et Stéphano, on décide de se lancer dans un développement de cartes anciennes en nordicité pour doter la bibliothèque de l'Université Laval d'une collection intéressante. Des cartes, mais aussi des livres anciens, des récits des grands explorateurs, pour refléter aussi là, le grand intérêt que l'Université Laval porte pour la nordicité. Et c'est une acquisition à ce moment-là d'envergure et on n'a pas encore l'habitude de faire des acquisitions importantes comme celle-là. Et pour, disons, avoir un appui externe, on a la chance de pouvoir contacter M. Hamelin parce qu'au même moment, M. Hamelin dépose ses archives à l'Université Laval. Et par l'intermédiaire d'un collègue archiviste, je sais ça et je peux communiquer avec M. Hamelin et il me dit « Cette carte-là, elle est fantastique. C'est une carte importante pour la nordicité. Ça me ferait plaisir de vous écrire une lettre pour appuyer l'acquisition. » Mais il nous dit en plus j'ai travaillé pendant quelques décennies à une analyse de la carte, à un manuscrit qui n'a pas été publié. Ça serait peut-être une belle occasion de travailler au développement de cette analyse-là, pendant que vous faites l'acquisition. Donc, nous, on était intéressés. Et à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés là, tous les trois plusieurs dizaines de fois. Et puis, on est parti du manuscrit de M. Hamelin qui faisait, je pense, environ 80 pages. Puis, on a développé considérablement le document en termes de contenu textuel, visuel, en termes de cartes. Stéphano, un des co-auteurs, a réalisé des cartes contemporaines pour permettre de bien comprendre qu'est-ce que Mercator avait voulu représenter. On est allé fouiller dans le fond de photographies de M. Hamelin, des photographies du territoire. C'est celle que vous retrouvez dans le livre. Et puis, voilà, ensuite de ça, on a présenté l'ouvrage aux éditions du Septentrion. Et puis, vous avez le résultat entre vos mains.
Résultat qui, soit dit en passant, est vraiment superbe. Bon, je suis les éditions du Septentrion depuis quelques années et les éditions du Septentrion sont vraiment reconnues pour faire des œuvres d'art avec leurs livres, des très beaux livres. Et c'est vraiment le plus beau livre, à mon avis, depuis quelques années avec, bon, la fabuleuse histoire des arts aussi de Denis Vaugeois qui est très, très beau. C'est véritablement deux chefs-d'œuvre, en fait, en termes de graphisme, en termes, en fait, de qualité de l'image. Et ça vaut vraiment, en fait, la peine de l'acheter, je dirais, que pour les images à la base, mais aussi pour le texte dont on va pouvoir parler un petit peu ce soir. D'abord, en fait, qui est Mercator? C'est quoi, en fait, l'importance de Mercator à son époque? Et bon, on parle beaucoup de ce cartographe-là, mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre aussi?
Mercator, on peut le présenter comme un cartographe, mais aussi comme un géographe, comme un mathématicien et puis aussi comme un philosophe. Un cartographe parce qu'il a produit une quantité importante de cartes. Un philosophe parce qu'il a réfléchi continuellement au lien entre la science et la religion. C'est quelque chose qui l'habitait profondément. C'était un catholique. Il était un fervent pratiquant. Et mathématicien parce que il a inventé une projection qui permettait de représenter les distances sur une carte, de représenter aussi la rotondité du globe sur une carte qui a pu être utilisée par les navigateurs et puis qui a révolutionné la cartographie, la fameuse projection de Mercator. Donc, lui, il naît à Rupelmonde, qui est aujourd'hui en Belgique. À ce moment-là, c'est dans les Pays-Bas. Et ça fait partie du Saint-Empire romain germanique, qui est dirigé par Charles Quint, l'empereur. D'ailleurs, il va connaître Charles Quint. Mercator va avoir des très hautes relations, autant politiques que religieuses. Il vient d'une famille très pauvre. Son père est cordonnier, est agriculteur. Ses parents vont décéder alors qu'il est encore tout jeune. C'est un oncle qui va s'occuper de lui, un religieux qui va lui permettre de fréquenter un collège. Ça, c'est très important. Il va reconnaître à Mercator quelqu'un un enfant particulièrement intelligent et doué. Donc, dans sa fréquentation du collège, il va s'initier à la fabrication des livres et à la calligraphie. Puis ensuite de ça, il va faire son entrée à l'Université de Louvain, où il va rencontrer son mentor, qui s'appelle Gemma Frisius. C'est un cartographe, un mathématicien aussi, qui réfléchit à la notion de projection. Puis, il va quitter l'université. Il ne va pas terminer son programme d'études, mais il va devenir cartographe professionnel, puis il va continuer quand même à travailler avec Gemma Frisius. Alors, au cours de sa carrière, il va produire des cartes très importantes qui vont avoir une influence à l'époque, comme la carte de la Terre Sainte, la carte de la Flandre, parce que Mercator dit « L'homme est né pour Dieu et pour son pays ». Donc, la première carte qu'il produit, c'est la carte de la Terre Sainte. La deuxième, c'est la carte de la Flandre. Si on va un petit peu plus loin dans sa production, il va produire un globe terrestre en 1541. Un très beau globe terrestre dont on a une reproduction magnifique à la bibliothèque de l'Université Laval. Et en 1544, Mercator est accusé d'hérésie. Oui.
Pourquoi?
C'est intéressant. On l'accuse de sympathiser avec les idées de Martin Luther, qui sont de plus en plus influentes en Europe, sur la base de lettres, de correspondances qui sont aujourd'hui perdues. Et il y a une espèce de climat, climat malsain à ce moment-là, dans cette région-là du monde. Et il va décider de quitter pour l'Allemagne, à Duisbourg, où il va travailler, puis où il va mourir. Et puis il va produire en 1569 sa fameuse carte du monde, dans laquelle il y a la projection de Mercator, qui va révolutionner la cartographie. Son grand atlas va être publié en trois tomes, trois volets, 1585, 1590, 1595. 1595, c'est un an après sa mort, donc la dernière partie est publiée à titre posthume. Il est très malade à la fin de sa vie et il va avoir montré le travail de cartographe à ses petits-fils et à ses fils qui vont l'aider dans la gravure des plaques. Et c'est dans ce dernier tome-là, en 1595, qui est contenu la carte Septentrionalium Terrarum Description.
Et quand il produit ces cartes, est-ce que c'est à partir de cartes qui ont déjà été produites ou c'est lui-même, par exemple, là, vous parlez de la Terre Sainte, est-ce que c'est à partir d'informations qu'il a obtenues ou c'est plutôt en y allant directement? Comment il va faire pour produire ces cartes?
Il va toujours demander à avoir les productions cartographiques existantes.
Okay.
Il va se fier à ce qui existe. Il va aussi demander à avoir les rapports de voyage des explorateurs. Il veut toujours avoir les données les plus complètes. Et pour ce qui est de la Terre Sainte, c'était déjà cartographié. Mais quand on arrive dans des territoires qui sont moins connus, là, il va avoir recours à sa propre imagination ou sa conception de la mécanique géographique de la Terre. Mais il va toujours demander des données et des sources. Et s'il n'y a pas de sources contemporaines qui existent, il va se référer à des sources du Moyen Âge pour produire sa cartographie. Puis il va la plupart du temps citer une bonne partie de ces sources-là dans son atlas.
Fascinant. Et on s'en va maintenant en musique avant de passer plus amplement à la carte. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? C'est quoi son intérêt? On y reviendra après la pause musicale. Parce que là, on s'en va entendre New Horizon de Muddy Blues. Nouveaux horizons, c'est de circonstances pour cette carte qui découvre le Nord d'une certaine manière.
I got my new horizons out to see. But I'm never gonna lose your precious gift. It will always be that way. Cause I'm not gonna find my peace of mind someday.
Alors ici Lucien Bouchard, vous écoutez la station Chiz 94,3 Radio Campus Laval.
Et ces 3100 secondes d'histoire qui parle toujours de l'apparition du Nord et de Gérard Mercator. Et là, on va plonger directement dans le sujet principal du livre, la fameuse carte Septentrionalium Terrarum Descriptio. Justement, quel est l'intérêt justement ou l'unicité de cette carte-là? Pourquoi faire un livre entièrement sur cette carte-là, en fait, aussi?
Bien, l'intérêt, ça me l'est majeur. D'ailleurs, je voudrais somme, que les gens aient dans la tête là, la carte. Et au centre de la carte, il y a une grande tartine. Mm-hmm. Une grande tartine qui occupe à peu près la moitié de l'océan Arctique. Cette tartine-là, qui n'est pas mentionnée d'une façon précise dans Mercator, mais nos recherches nous ont permis d'arriver que c'était la banquise polaire. La banquise polaire, donc, qui occupe déjà... à cette époque, la moitié somme de l'océan Arctique. C'est colossal d'apprendre cela. Et la deuxième chose qu'on regarde ensemble cette carte, c'est autour de cette tartine blanche, contiguë, qui n'a pas de montagne, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui fait à peu près le tour de la grande tartine, et cette eau-là se trouve entre la banquise de glace dont on vient de parler et la fin nord des continents, de l'Eurasie et de l'Amérique. Donc, tout est là. Et tout est là, et ça nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette espèce de lutte entre les endroits qui sont occupés par la glace et les endroits où on peut faire de la navigation. De sorte, la carte de Mercator, le 1595, c'est une carte d'introduction magistrale aux questions somme, qui se posent maintenant. Évidemment, somme, ce n'est pas les mêmes tartiques, c'est même pas la même démarche. On pense à d'autres choses aujourd'hui que dans ce temps-là. Mais le fond de l'histoire de cette carte, c'est une histoire de 1001. La grande tartine de glace qui est au centre, c'est à peu près la situation du réchauffement médiéval vers l'an 1000, qui a correspondu à l'avenue des Béquilles et en même temps qui correspondait à des essais infructueux pour entrer en fait, dans l'océan Arctique, en faire le tour et partir de l'Europe et aller jusqu'à l'Asie, la Chine et l'Inde. À tel point, somme que le sous-titre des œuvres de Mercator, c'est « Ad Navigantium », c'est-à-dire « Je fais tout ça pour la navigation ». C'est extrêmement étonnant. Et quand on regarde, somme, dans ces, toujours « Je reviens à ma tartine », quand on regarde les indications latines qui sont écrites là-dedans, en somme, on voit qu'il est mentionné à un certain endroit, ce chenal gèle pendant 3 mois.
Ah oui, des précisions.
C'est extraordinaire. On pouvait dire ça, puis on peut le dire en somme, encore actuellement. Et un autre endroit, en somme, il dit celui-là en somme, ne gèle pas. On est à la baie de Baffin. Et de sorte qu'on pourrait replacer somme, ce puzzle, puis morceau par morceau, du Moyen Âge, et appliquer ça d'une façon contemporaine. S'il y a quelque chose de plus merveilleux dans la carte, c'est pas possible. Donc, on est en présence somme, d'un auteur génial qui a pu saisir, comme disait mon collègue tantôt, qui a pu, par le raisonnement, poussé extrêmement loin le raisonnement. Il a forcé les mots et les choses afin de leur donner une interprétation qui dure. Donc, tout le monde devrait être intéressé à voir comment un homme qui n'avait pas les sciences d'aujourd'hui, qui a permis de se rendre si loin simplement en exploitant à fond le raisonnement.
Et ce qui est tout à fait fascinant, justement, c'est que c'est l'actualité de la carte, là, puis c'est complètement, en fait, dans les problématiques actuelles, comme vous le dites. Mais à l'époque, en fait, ça va être quoi la portée que va avoir la carte? Est-ce que c'est une carte, bon, on disait que Mercator était quand même quelqu'un d'assez important à son époque, un cartographe assez reconnu, proche de Charles Quint, etc. Mais est-ce que sa carte va avoir un certain impact? Est-ce qu'on va s'intéresser au Nord à la suite de la publication de sa carte? Ou est-ce qu'elle va passer un peu inaperçue parmi les autres cartes qu'il va publier?
En fait, Mercator est grandement diffusé. C'est un des premiers véritables cartographes professionnels. Il bénéficie vraiment d'un réseau de diffusion assez élaboré pour l'époque. Et son atlas est vendu, là, vraiment, toujours pour l'époque, là, à un nombre assez impressionnant d'exemplaires. La carte va être diffusée, elle va être connue, mais le problème de cette carte-là, si on dit le problème, entre guillemets, c'est justement cette surface centrale-là. Parce que les connaissances vont se développer et de la façon dont c'est représenté, on voit vraiment une division là, en quatre grandes îles avec, là, je ne sais pas si les auditeurs ont en face d'eux la plateforme web, mais en son centre, ce grand rocher noir-là et quatre grands fleuves ou brouilles évacuateurs qui amènent les eaux vers le pôle nord. Et nous, ce qu'on dit, ce que M. Hamelin a expliqué aussi, c'est que on croit que si on se réfère à l'étendue, à la superficie de cet espace central-là, on a affaire à la superficie de la banquise au Moyen Âge. Mais ça, c'est une interprétation qu'on fait. C'est des réflexions qui nous ont menés à penser ça. Mais on a su assez rapidement que ça ne correspondait pas à la réalité, ce qu'on voyait au centre de cette carte-là. Et ça fait en sorte que la carte, elle a été discréditée. Et puis, même qu'on a trouvé des éléments qui étaient absolument fantaisistes, fantasmagoriques, voire farfelus, parce que le centre avec ce rocher-là, et puis cette espèce d'anneau autour du rocher, c'est un anneau, c'est de l'eau qui tourbillonne, c'est une vision de l'Antiquité que Mercator reproduit. Dans cette vision-là, on croyait que toutes les eaux de toutes les mers du globe convergeaient vers le pôle Nord, étaient amenées par ces quatre grands bras évacuateurs, tourbillonnaient autour de ce Rupes Nigra, ce rocher noir, allaient s'engouffrer sous le rocher et s'évaporer au contact du feu central de la Terre. Alors, imaginez la réaction quand les gens ont su vraiment qu'est-ce qu'il y avait. En tout cas, on commençait à savoir que ce n'était pas de cette façon-là que ça se représentait. Cette carte-là, elle a été discréditée. Puis nous, une partie de notre effort, c'est d'essayer de démontrer qu'elle a encore des informations qui sont valables et qui peuvent nous en apprendre.
D'ailleurs, en fait, un des intérêts de cette carte-là, c'est qu'on voit dessus des fleuves qui ont été découverts seulement 200 ans plus tard. Tout à l'heure, on parlait du Mackenzie, où on le voit qui rentre dans les terres, puis on voit même le lac des esclaves au bout. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait des fleuves qui n'étaient pas encore découverts ou qui ont été découverts 2-3 siècles plus tard?
Oui, bien, c'est une bonne question. Ça me pose une autre question. Quelles étaient les sources d'informations? On y a touché tantôt. Les sources d'informations de Mercator. Mercator a un très puissant empereur, Charles Quint, qui est en lutte contre François Ier, roi de France. Et Charles Quint, ça gouverne les anciennes colonies espagnoles, c'est-à-dire qu'il y a des ambassades qui sont en Asie. Et de sorte que ces ambassades-là envoyaient à l'empereur beaucoup d'informations sur les Philippines, des endroits sont très éloignés. Également, nous sommes dans le nord, dans l'océan Arctique. Oui, dans la carte, on voit très bien le mot California.
Oui, qui est à peu près où est l'Alaska aujourd'hui.
Oui, c'est ça, California. En fait, les gens font ce qu'on n'a pas fait, nous. Nous, on a pris la carte telle qu'elle est, on l'a respectée. On n'était pas là pour la juger, on n'était pas là pour l'embellir, on était là simplement, objectivement. De sorte que le mot « Californie », qui est au nord, en somme, du Mackenzie dont vous venez de parler, eh bien, ce mot-là, c'était le mot espagnol, le mot espagnol de la conquête espagnole de l'Amérique. Donc, c'était immense, c'était pas simplement la Californie d'aujourd'hui aux États-Unis, de sorte que c'est la même chose, en somme, pour le Mackenzie. Le Mackenzie, il fallait que Mercator ait des choses très précises. Le Mackenzie, il est en deux voies principales. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui, il arrive au détroit de Bering, au Sept Arctique. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui, il y a un delta. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a le lac des esclaves qui s'appelait Lago de Conibas, le lac des Autochtones. Comme aujourd'hui, il y a une petite forêt, en somme, qui est à droite, comme aujourd'hui. de sorte qu'on est loin là de penser que c'est un cartographe fantaisiste, Mercator, qui, dans le fond, se fout de n'importe quoi, puis il y a de l'imagination, puis il dessine un fleuve. Le fleuve, il va vers le nord-ouest, comme aujourd'hui. Donc, il y a trop de caractéristiques qui représentent ce qui est aujourd'hui pour ne pas en avoir été vu. Or, il pouvait être vu par des expéditions espagnoles venant du Pacifique. C'était trop loin, somme, pour l'Europe occidentale. De sorte qu'on est en présence d'un peu de l'histoire du monde, peut-être à redresser. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Et tantôt, on parlait un peu que ça a été un peu remis en question, sa façon de représenter le Nord. Là. Mais quelles étaient à l'époque? Est-ce qu'il y avait d'autres manières qui ont été produites pour représenter le Nord? D'autres cartes, par exemple, de ce type-là? Ou est-ce que c'est vraiment la seule ou la première ou dans les premières là, à vraiment avoir le Nord comme partie centrale de la carte? Là?
C'est la première carte qui est consacrée à l'extrême Nord, vraiment, de cette façon-là. Et qui utilise aussi une projection polaire. Donc, le Nord est au centre de la carte. Hein. Les gens, souvent, sont surpris de voir ce type de projection-là. Mm-hmm. Habituellement, on voit plutôt le Nord représenté en haut de la carte. Mais là, mm-hmm. c'est vraiment le centre. Le centre, c'est le pôle Nord. Ça, c'est neuf. C'est Mercator qui est audacieux et qui décide de prendre une décision de consacrer une carte de son atlas à l'extrême nord. C'est déjà quelque chose en soi. Il y avait quand même d'autres cartographes avant lui qui s'étaient intéressés à ces régions-là. Il y avait certains collègues qui avaient produit des cartes qui étaient assez intéressantes, dont Gastaldi, qui va produire une carte dans laquelle le Mackenzie commence à être représenté. Donc, Mercator est au courant là, de ces productions-là. Et il va chercher, comme je le disais un petit peu plus tôt, à connaître vraiment toutes ces représentations-là. Mais il va aussi correspondre avec des personnes comme John Dee, un Anglais, qui va devenir son ami, qui se pose des questions sur la représentation vraiment de l'extrême nord et de la banquise. John Dee va produire une carte qui va aider Mercator dans son travail d'élaboration de la représentation cartographique du nord.
Et sur ce, on s'en va en musique avec une pièce de Jan Tiersen qui est issue de la bande sonore du film Taberley, Atlantique Nord.
Thank you. Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh!
Et vous êtes toujours à 3600 secondes d'histoire avec Alex, Anthony, Louis-Edmond Hamelin et Joey Bouchard. Et on parle de l'apparition du Nord selon Gérard Mercator, leur superbe ouvrage documentant une carte de Mercator datant de 1595, si je ne m'abuse. Et sur cette carte-là, en fait, on en parlait pendant l'intermède musical, bien on voit une forme qui s'avance dans le continent, en fait, nord-américain, qui ressemble curieusement à la baie du Tusson. Et dans la baie du Tusson, on parle, en fait, de Canadiensis et de Saguenayensium. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir que à l'époque, sur une carte qui, bon, date d'avant Champlain, mais bon, quand même après Cartier, eh bien, on a déjà une mention du Saguenay, déjà une mention, en fait, du Canada. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ou est-ce que Mercator avait pu être en contact avec les récits de Cartier, par exemple?
Bien, en fait, Mercator, il était ouvert à la population, de sorte qu'il a mentionné plusieurs... indigènes, aborigènes, autochtones, etc., dans différentes parties du monde. Sur la carte, ça, on voit très bien qu'il parle des Skrillingers. Skrillingers, c'est dans son mot, ça veut dire les Inuits d'aujourd'hui, et qui viennent du Groenland. Mais c'est extraordinaire, cette époque. Et ils disent que ces peuples-là sont terreux. Ben, ils les qualifient de Salubert-Rima, qui veut dire être... content, être satisfait, ayant une bonne vie. Donc, on mangeait beaucoup à cette époque. C'est ça que ça voulait dire. Il fallait d'abord se nourrir. Alors, les Inuits se sont très bien nourris durant somme, l'époque de civilisation qui s'appelle Thule. Thule, somme, c'est dans cette période-là, de l'an 1000 plus ou moins. De sorte qu'on retrouve toujours chez Mercator cette espèce de puissance de l'esprit qui va faire des liens entre des choses, en somme, qu'on va prendre des siècles après à aborder d'une façon légère et scientifique. Et quant aux deux mots, là, au Québec, le Québec se trouve présent par ces deux mots-là, canadensais, il ne s'agit pas du tout, c'est des Canadiens, mais pour les Jésuites et pour les gens de Mercator auparavant, en somme, c'est canadensais, ça voulait dire... canadensais voulait dire... les Autochtones. Mais c'est extraordinaire que ce type-là parlait des Autochtones à cette époque. La colonisation va les bousculer par la suite pendant 4 siècles, mais déjà, ils étaient dans l'aura intellectuelle. De même chose que les gens du Saguenay, Saguenay-Ensium. Puis dans le fond, il met les deux, là, il rit d'un de l'autre et dit, bon, bien, quelqu'un dit quelque chose, puis les Saguenayens s'imaginent que... De sorte que déjà à l'époque, on voit une sorte de différence culturelle entre ces deux peuples-là que Mercator institue dans la baie du Tusson, qui s'appelait Hic-Mare.
Et ce qu'on remarque aussi sur la carte, c'est que, bon, il y a certains continents qui sont déjà, c'est sûr, qui sont présents, etc., mais c'est véritablement le Nord qui est mis au centre. Et pourquoi, en fait, avoir choisi de mettre le Nord au centre? Est-ce que c'est pour... Parce que c'est des préoccupations de navigation, comme on a mentionné tout à l'heure, ou c'est véritablement autre chose, en fait, qui fait qu'on met l'accent sur le Nord cette fois-ci?
Bien, il a mis l'accent sur le Nord, genre, parce que c'était ça. Chez Mercator, en fait, il y avait aussi la recherche de la vérité, comme chez tous les chercheurs. Et les rapports qu'il avait, parce qu'il faut penser qu'avant l'an 1000, il y a eu d'autres années où il y a eu des réchauffements climatiques, comme celle qu'on est en train de vivre, de sorte qu'à ce moment-là, il y avait une pénétration plus facile dans l'océan Arctique. Et Mercator ne fait que penser à cela. Mais Mercator, comme je disais tantôt, ad navigantium, c'est-à-dire je fais tout ça pour la navigation. Il voulait aller chercher les choses d'Asie, de la Chine, du Japon, de l'Inde, en passant par le Nord, c'est-à-dire en raccourcissant ce qu'on veut faire aujourd'hui, énormément fait le trajet. De sorte que dans la conception, Mercator, ce n'est pas simplement un intellectuel comme ça, là, dans les nuages. C'est un type très concret. C'est un homme d'affaires, d'ailleurs. Il s'est appelé Mercator. C'est lui qui a changé son nom. Mercator, ça veut dire le marché public. Ah, donc, ouais. C'est un homme d'affaires, qui était prêt, en fait, de vendre ses cartes, etc. Et Ils voulaient aussi avoir une route, la route la plus simple, la plus courte, pas obligé de pas traverser l'Atlantique. Mais là, ils traversaient plutôt l'Amérique du Nord. De sorte que c'est toute une conception là, qui intéresse fondamentalement les historiens et tous ceux qui réfléchissent à comment le territoire du Nord et du monde s'est organisé.
Tout à fait fascinant. Et tout à l'heure, on en parlait aussi à Ande. On voit sur la carte des réalités géographiques, comme on l'a mentionné, le fleuve Mackenzie, la banquise. En fait, on voit aussi le nord en fait, de l'Europe. Mais on voit aussi des territoires en fait, qui sont inventés, qui sortent de l'imaginaire de Mercator. Comment en fait les deux types de territoires peuvent se superposer dans la carte? Je pense notamment à une île qui est un peu entre le Groenland et Terre-Neuve, qui sort complètement en fait, de l'imagination de l'époque. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait, peut-être un peu plus amplement sur ce chevauchement-là entre l'imaginaire et la réalité dans les cartes de l'époque et particulièrement dans cette carte-ci?
Par rapport à l'île dont vous parlez, c'est l'île de Frisland. Mercator utilise des cartes qui ont déjà été produites. Et une de ces cartes-là, on en parle dans l'ouvrage, c'est la carte des frères Zeno qui affirme avoir voyagé vers, c'est pas tout à fait clair, mais vers l'Amérique. Et ils vont dessiner une île. Frisland, avec des toponymes, et puis c'est quand même assez bien représenté. Mais Mercator ne le sait pas. Mercator, c'est un cartographe de cabinet. Mercator ne voyage pas. Et les frères Zeno ont quand même encore de la crédibilité à cette époque-là. Plus tard, ils vont être accusés d'être des faussaires, mais il va reproduire cette île-là. Par rapport à l'imaginaire, bien, le plus bel exemple, je pense, que c'est la figure centrale avec cette représentation-là d'une croyance antique avec le Rupes Nigra, le grand rocher noir très élevé, Rupes Nigra et Altissima au centre. Mais c'est de l'imaginaire, sauf que ça provient quand même de sources. Hein. Mercator, lui, ne le fait pas volontairement. Il se réfère à des sources. Son projet de grand atlas, c'est de représenter toutes les régions de la planète. Alors, il n'a pas vraiment le choix aussi de représenter le Nord, mais il y a beaucoup moins de données qui existent. La qualité de la cartographie, par exemple, de la Scandinavie, de l'Europe, de l'Eurasie, elle est très bonne parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux dessus. Mais par contre, si on regarde l'Amérique du Nord, l'extrême nord de l'Amérique, il y a des choses très intéressantes. Il y a des faits géographiques qui sont représentés avant leur découverte, sauf qu'on voit bien quand même que la science n'est pas parvenue au même degré.
La science est en train de se découper tranquillement, pas vite. En découvrant des nouveaux territoires, on est en train de peaufiner les cartes et de les concrétiser un peu plus.
Et je serais curieux de savoir, est-ce que Mercator a écrit justement sur cette carte-là ou vous êtes beaucoup allé par analyse, est-ce qu'il a laissé quelque chose, en fait, là, je ne sais pas, pour expliquer ou juste des textes ou des écrits là-dessus?
Au verso de cette carte-là, c'est une carte qui, comme on le dit, qui est dans un atlas. Au verso de cette carte-là, il y a une explication qui est faite par Mercator et il explique qu'est-ce qu'il a voulu faire et puis il explique où il a pris ses données, quelles sont ses sources. Pas toutes ses sources, mais certaines sources. Il parle de certains navigateurs en particulier. Donc, oui, il y a quand même un désir d'expliquer ça de la part de Mercator. Et Mercator réfléchit beaucoup à l'acte de cartographier. Il va aussi réfléchir à l'importance que le cartographe doit mettre dans la gravure de ses cartes. C'est quelqu'un qui c'est un intellectuel, c'est un penseur, mais il trouve que c'est très important que le cartographe grave lui-même les plaques. Il va expliquer pourquoi, il va même publier un traité d'écriture à ce sujet-là. Alors qu'il y avait des collègues à cette époque-là qui faisaient faire le travail par des artisans, qui faisaient des demandes et puis qui veillaient à ce que le travail soit mené, mais qui ne le faisaient pas de leurs mains. Mercator, lui, réfléchit à ça et il pense que c'est important et il veut convaincre aussi ses élèves ou les jeunes cartographes de faire de même.
Et tantôt, on en a parlé brièvement et Justement, la bibliothèque de l'Université Laval a acquis une de ces copies-là de 1595, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et je crois qu'elle vient de Prague, non?
Absolument. C'est un exemplaire original. Donc, la façon dont ça fonctionnait, c'était une gravure sur cuivre et ensuite de ça, on imprimait pour faire l'atlas. Et il y a très peu d'exemplaires originaux qui sont sur le marché. Et quand Stefano et moi, on a pris la décision d'acheter un exemplaire original du premier état, parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres états, beaucoup d'autres éditions de l'Atlas ensuite. Bien, on s'est lancé vraiment là, à la recherche sur le marché de la carte. Ça a été une entreprise assez longue, assez difficile. On n'avait pas de réponse positive. Les seules réponses qu'on avait, c'était « Vous ne trouverez pas cette carte-là parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vue. Elle va être très chère, etc. » Et on allait presque se décourager. On a pris la décision d'envoyer un avis de recherche massif à 180 marchands dans le monde. En leur expliquant qu'on cherchait vraiment cet état-là. Et on a attendu plusieurs jours pour avoir deux réponses. La première réponse, savez-vous de où elle provenait?
Je ne sais pas.
De Montréal,
ah,
figurez-vous.
Oui.
Ah oui? Il y a un collectionneur privé qui a un exemplaire de la carte, mais c'est un exemplaire en noir et blanc. Le prix demandé était très élevé. Quelques jours plus tard, on a eu une réponse qui provenait de Prague, un grand marchand de cartes anciennes à Prague, qui nous demandait un prix vraiment très raisonnable. Et la carte avait une coloration magnifique. Hein. C'est vraiment un très beau document. Il faut savoir que les cartes étaient imprimées en noir et blanc et c'était des artisans qui faisaient la coloration à l'époque. Donc, nous, on avait vraiment besoin de l'état original parce que l'analyse de M. Hamelin, à la base, s'attardait à un état aussi original, l'exemplaire de Bibliothèque et Archives Canada. Donc, on a commandé la carte et pour les gens qui s'intéressent, cette carte-là, elle est consultable. L'original est consultable. On peut nous contacter au Centre Géostat de la Bibliothèque de l'Université Laval sur demande et ça nous fait vraiment plaisir de montrer la carte. Du début à la fin du processus d'édition, on a rencontré beaucoup de gens, que ce soit les imprimeurs, les photographes, les éditeurs. Et à chaque fois, les gens, quand ils voient l'original, ils ont une réaction. Hein, je pense, M. Hamelin, on peut parler de la qualité de l'imagerie de cette carte, mais elle dégage vraiment quelque chose. Ce n'est pas seulement une carte géographique, c'est vraiment une œuvre d'art.
Oui, évidemment, cette carte-là, on devrait en faire une espèce de représentation d'un tableau. Quelqu'un, c'est aussi beau, regarder cette carte-là, même si on ne veut pas l'explication précise, en somme, de la glace, de la lutte entre la glace et la terre et l'eau, mais c'est extrêmement beau. De sorte qu'il y a deux choses de beauté dans le livre qui a été publié. Il y a la carte de Mercator de 1595 et il y a aussi les dessins que nous avons faits dans l'équipe et qui a été repris, dessins qui ont été repris par l'éditeur Septentrion à Québec. C'est de sorte qu'il y a eu là une convergence d'art qu'on ne trouve pas souvent dans le domaine scientifique.
On parlait des cartes, en fait, que Stefano a produites, mais aussi de la carte synthèse à la fin de l'ouvrage que Stefano aussi a réalisée et qui est une superposition de la carte de Mercator avec une carte produite en 2012.
Ah, oui.
Donc, qui nous permet, puis on a inclus aussi la moyenne de la banquise au cours des 5 dernières années, donc qui illustre l'époque actuelle de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment la synthèse de l'ouvrage parce qu'on voit justement où Mercator était vraiment dans le mille, où il y avait peut-être des dissemblances et par rapport à la banquise, hein, comme M. Hamelin le mentionnait au début, la banquise ou cette étendue-là centrale que Mercator représente, c'est probablement l'étendue au Moyen Âge, au cours d'un réchauffement climatique. Parce que les sources qu'il utilise, ça provient du Moyen Âge et ça, on le sait. Alors, on compare cette étendue-là du Moyen Âge avec cette étendue-là aujourd'hui qui témoigne d'un réchauffement climatique. En ce sens-là, on peut même dire que la carte de Mercator, c'est une carte historique puisqu'il y a une certaine partie de la représentation qui n'est pas contemporaine à l'époque de Mercator.
Oui, parce qu'à ce moment-là, en 1595, le froid était revenu. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. De sorte que c'était invraisemblable pendant le retour du froid qu'on puisse trouver une partie de l'océan Arctique sans glace.
Oui, donc c'est un chevauchement de plusieurs époques dans la même carte, voilà. En fait. Là. C'est vraiment fascinant. Ça doit être très intéressant de la voir aussi là, directement, l'exemplaire, là, à la bibliothèque.
Donc, si vous passez par Québec, on vous invite à venir voir la carte, à contacter en fait le centre Géostade de l'Université Laval avant pour prendre rendez-vous. Et qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion de la voir en compagnie de M. Biondo et M. Bouchard qui pourront vous donner un peu plus de documentation sur la carte parce qu'ils travaillent vraiment au centre Géostade tous les deux. Et si vous voulez entendre, en fait, M. Bouchard, M. Hamelin et M. Biondo plus amplement sur cette carte-là et les rencontrer, en fait, c'est possible parce que, justement, ce samedi, au Grain de Soleil Café sur l'avenue Maguire, la librairie Vaugeois organise un café-causerie sur cet ouvrage-là en compagnie des trois auteurs. On mettra les informations sur notre page Facebook. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette carte-là, c'est une belle occasion de venir en apprendre plus. Donc, ce samedi, si je ne m'abuse, c'est le 8 juin. À 10h au Café Grain de Soleil Café, juste à côté de la librairie Vaugeois sur Maguire. Venez rencontrer les auteurs, ça vaut la peine et ça vous permettra de poser des questions un peu plus spécifiques. Eh bien, merci beaucoup en fait, oui, M. Hamelin. Merci beaucoup, M. Bouchard.
Merci à vous.
Et on était très contents de vous recevoir, surtout pour cette 50e émission. Eh bien, ça augure bien pour la suite. Et sur ce, eh bien, on se laisse en musique avec Pierre Lapointe, Pointant le Nord. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur Alfred Pellan à l'occasion d'une nouvelle exposition qui va se tenir cet été au Musée des Beaux-Arts sur Pellan.
À demain, quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin, quand je couche mon corps tête pointant le nord et que je sens mon dos rappelant le troupeau, quand les funérailles de balais là où les gens baillent en anglais font que même la vieillesse en prend de paresse, finit par doubler le masque d'Orphée, quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, que la rivière coule et que tout déboule malgré le sang et les dents qui cassent. Non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Car il y a une rivière qui a poussé entre nous, même si la terre tout entière ferme les yeux et s'en fout. Et si un jour tu y plonges, moi j'y plongerai avec toi pour noyer dans la pénombre la grandeur de nos ébats. Et si la terre tout entière se met à rire de nous, nous leur lancerons des pierres pour graffiner nos genoux. Mais non jamais, mais oui je sais que je ne parlerai pas, bouche gelée jusqu'à ce que nos deux corps soient enterrés. Alors non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Pour toutes les grand-mères de la terre, celles qui partiront dans le vent, celles qui partiront pour la guerre, armées d'enfants. Moi, j'ai rongé les sabots de l'âme pour oublier que l'on oublie toutes ces obscénités qu'on apprend. réarranger, que même un pape outré ne pourrait condamner. Alors non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas.
Xavier, lâche ton ordinateur, j'ai besoin de toi pour aller faire une commission.
Oh, come on, man, là.
Allez, 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 je t'ai fait une liste.
OK.
Fait que ça me prend du pain, du beurre, des œufs, du maïs, des carottes, et puis ramène-toi 2 litres.
Hein?
Ben voyons.
T'es vraiment la mère la plus haute.
Ça va, Xavier?
Mouah! T'aimes assez, man, là!
Oui, oui, moi aussi. Bon.